Eh bien, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 5e, et nous allons aller au verset 17, ce texte est bien connu, mais vous savez, la parole de Dieu, elle ne change pas, heureusement, parce que c'est la parole de Dieu. Et cette écriture, elle est toujours riche d'enseignements. La Bible nous dit que c'est une parole qui est vivante, c'est-à-dire que Dieu nous parle eh bien, au travers d'elle. Et nous sommes donc Luc au chapitre 5 et au verset 17. Amen. Ça va ? Vous allez bien ? Vous êtes, là-bas, ça va, la salle annexe ? Il restait encore quelques places. Hein. Vous auriez pu, hein, voilà. Mais vous êtes bien là-bas. Hein. Est-ce que vous m'entendez ? Voilà, je vois des sourires. Alors, ça me fait plaisir. Voilà. Gloire à Dieu. Là-bas, c'est surtout le coin des jeunes, hein, je m'aperçois. Hein. Il y a quelques anciens, quelques aînés quand même qui vont là-bas. Ben, on est nous, on est toujours jeunes. Voilà. Hein, Colette ? Gloire à Dieu. Alors, on lit Luc, chapitre 5, et le verset 17. Voici ce qui nous est dit. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés ». Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Il disait, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. » Gloire au Seigneur. Voilà un miracle, parce qu'un homme qui était paralytique, eh bien, au contact du Seigneur, parce que Jésus, eh bien, a manifesté sa puissance envers lui, eh bien, cet homme qui ne pouvait pas marcher s'est mis à marcher, s'est relevé de sa paralysie. Il y a eu un miracle signalé de la part de Dieu qui a été établi là dans ce contexte. Et nous voulons dire, Seigneur, eh bien, tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Alléluia. Cet homme qui était paralysé, cet homme qui ne pouvait plus avancer, cet homme qui était immobile, voici que tu l'as fait marcher, il a pu rentrer chez lui, eh bien, avec cette joie dans le cœur. Et je prie le Seigneur afin que, au milieu de nous, celui, celle qui n'est peut-être pas paralysée par une paralysie physique, mais il y existe d'autres paralysies, eh bien, puisse être mise en mouvement par l'action du Seigneur dans sa vie et que tu puisses retourner dans ta maison, que tu puisses retourner chez toi avec sa joie dans le cœur en disant « C'est pas terminé, le Seigneur a encore un plan pour moi. Alléluia !» Et le titre de mon message, eh bien, c'est celui-ci, « Jésus nous met en mouvement ». Lorsqu'on lit, et on va le voir ensemble, mais la vie chrétienne, elle est caractérisée par un dynamisme. Lorsque nous étions dans la religion ou dans une tradition, on nous disait « fais ceci, fais cela » et sans trop bien comprendre, mais en essayant de faire les choses bien, on obéissait à des codes religieux, culturels, de notre famille, de notre pays, etc. Mais en réalité, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de dynamisme. Et lorsque on faisait le devoir religieux et qu'on rentrait chez soi, rien n'avait vraiment changé, ça ne nous mettait pas en action, il n'y avait pas comme une propulsion dans notre vie. C'est tout l'inverse de maintenant, lorsque nous avons rencontré Jésus, alléluia. Là, nous faisons le plein d'une certaine manière. Nous élevons le nom du Seigneur. Jésus vous visite, il y a eu des dons spirituels. Vous avez loué Dieu, il y a la parole de Dieu. Le Seigneur vous parle, il y a quelque chose de dynamique, alléluia. Et la vie chrétienne est caractérisée par ce mouvement. D'ailleurs, je fais en introduction, lorsque des hommes de Dieu parlent, eh bien, dans la Bible, de ce que Jésus fait dans leur vie, je cite l'apôtre Paul, par exemple, dans les Philippiens, au chapitre 3, verset 13, il dira « Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu qui est en Jésus-Christ. » Il est en mouvement, lui. Quelqu'un qui court, c'est quelqu'un qui est en mouvement. Il est même dans une forme de déséquilibre parce que, eh bien, un pas en appelle un autre pas pour avancer, pour courir. Il est en mouvement. Lorsque Paul, à la fin de sa vie, fera un petit peu le bilan de ce que ça a été, eh bien, sa vie avec le Seigneur, il dira de Timothée 4:7 « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Et on s'aperçoit combattre, courir encore, achever la course, garder la foi. Mais on est dans l'action, on est dans le combat, on est dans une vie qui est dynamique, non pas une vie qui subit. Et je voudrais vous dire ceci, et peut-être quelqu'un ce matin, eh bien le Seigneur veut te remettre en marche. Alléluia. Parce que le Seigneur, c'est celui qui donne du mouvement à ta vie. Amen. Amen. Lorsque nous voyons le Seigneur, on va y revenir, peut-être que je me répéterai, je m'en excuse par avance, mais lorsque Jésus pénètre les vies, entre dans les cœurs, entre dans les vies, il les met en mouvement. Je pense notamment à cette belle-mère de l'apôtre Pierre. Jeudi matin, il nous en a été parlé dans une réunion de prière à Richter et on a entendu ça. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que c'est cette belle-mère. Vous connaissez ce texte ? La belle-mère qui a la fièvre. Il y en a certains qui ont la fièvre. Ça va, Guillaume ? Alléluia, voilà, et comment Jésus vient vers elle, il y a des miracles tout autour, mais elle n'a pas pu se déplacer, elle est à la maison, elle a la fièvre, elle grelotte, elle n'est pas bien, mais le Seigneur ne l'a pas oublié, amen. Il va dans cette maison, et Pierre dit, mais c'est ma belle-mère, et elle, comme quoi le Seigneur avait changé le cœur de Pierre, hein. Il demande à ce qu'on prie pour sa belle-mère, c'est formidable, et donc vous riez pas, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, eh bien, il nous est dit ceci, eh bien que cette dame va être guérie par le Seigneur. Et la Bible nous dit, aussitôt, elle le servit, elle se leva, et elle se mit à servir le Seigneur. On aurait pu lui dire, repose-toi, reste tranquille, détends-toi, tu as beaucoup... Mais ce n'est pas ça. Moi, je ne vois pas que le Seigneur dit, allez, repose-toi, détends-toi, va au spa. Non, ce n'est pas ça. Jésus communique une vigueur, alléluia, pour le servir, pour que nos vies soient utiles, alléluia. Amen. Et je voudrais te dire, et c'est mon premier point, et on verra ceci, c'est que Jésus, il apporte le mouvement à ta vie, et ce qu'il va mettre en mouvement dans ta vie, c'est la foi, c'est le pardon et c'est la guérison. Parce que si tu n'as pas la foi en lui, comment tu vas avancer ? Quelqu'un qui ne croit pas, ou dont la foi a faibli, ou qui a reculé dans la foi, ça peut arriver, hein, même pour les meilleurs chrétiens. Hein. Mais ils ont besoin d'être restaurés pour avancer. Et s'il n'y a pas de place pour le pardon dans ta vie, la vie chrétienne, mais une des caractéristiques essentielles, c'est qu'un enfant de Dieu, il pardonne. Amen. Vous avez été pardonné. Et même, nous verrons ensemble que s'il y a absence de pardon dans nos vies, c'est des risques de blocage spirituel, où on n'avance pas. Cet homme a eu besoin de foi, il a eu besoin de pardon, et aussi il a eu besoin d'être guéri. On peut vivre, même en étant sauvé, même en appartenant au Seigneur, avec des contusions de l'âme, avec des blessures, bien qui sont là, et on n'a pas pris le temps, on a été négligent peut-être, on les a négligés, on a dit non, c'est pas grave, je continuerai avec, etc., etc. Et on s'aperçoit que si on ne règle pas certaines blessures, eh bien, ça peut être une entrave au plan de Dieu pour différentes choses. Imaginez qu'il y ait des blessures émotionnelles telles, des blessures sentimentales qui font qu'une personne vit toujours avec bien une déception à ce niveau-là et que ce n'est pas guéri. Et que le Seigneur amène une situation pour que cette personne puisse marier. Mais si la blessure n'est pas guérie avant ça, si la déception sentimentale ne trouve pas sa solution, sa guérison, mais pourra pas aller et avancer plus loin. Vous comprenez ? Vous êtes avec moi ? Gloire au Seigneur, alléluia ! Donc nous allons voir ensemble que le Seigneur veut mettre ta vie en mouvement, il en a le pouvoir, il est la résurrection et la vie, mais ce qu'il va mettre en mouvement ce matin pour toi, c'est ta foi, c'est le pardon dans ta vie, et c'est aussi te guérir, ta guérison. Alléluia ! Amen ! Gloire à Dieu ! Alors, tout d'abord, Jésus, eh bien, c'est celui qui met en mouvement. Lorsque je lis la Bible, je suis impressionné par l'activité du Seigneur. Alors, je vais prendre avec vous juste un texte, parce qu'il y en a énormément, mais ce texte, je l'aime beaucoup. C'est dans Matthieu 4, au verset 23. C'est un détail, peut-être, mais regardez-le. Il nous est dit, 4, 23, Matthieu, « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Il y a une phrase, il y a quatre verbes. Et le Seigneur, il parcourt, le Seigneur, il enseigne, il prêche, il guérit. Et on s'aperçoit qu'il y a une activité intense eh bien, du Seigneur. Et même l'apôtre Pierre dira dans les Actes des Apôtres, lorsqu'il prêchera eh bien, aux Romains, à Corneille, dans Actes 10, 38. Et il dira ceci. Alors, je trouve la page. Et il dira que Jésus allait de lieu en lieu, de village en village, et qu'il guérissait, qu'il délivrait tous ceux eh bien, qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et le mouvement eh bien, caractérise eh bien, cette vie qui était en Christ. Et en réalité, nous voyons en Jésus celui qui est parfaitement libre, celui pour lequel aucun obstacle eh bien, n'est capable de l'arrêter, ni même l'esprit de ce monde, ni même les pièges du diable, ni même le péché ne peuvent empêcher le Seigneur d'intervenir et d'agir. Et il est dans un mouvement, il est dans un dynamisme pour apporter et implanter le royaume de son Père dans les cœurs et dans les vies. Alléluia ! Et en même temps, alors bien sûr, nous disons, Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu fait homme, alléluia, c'est Dieu sur la terre, ok, très bien, et on comprend, il est saint, il est parfait, il est sans défaut, même la mort ne peut s'opposer à Jésus. Vous avez remarqué que dans le ministère du Seigneur, il y aura de nombreuses résurrections, alléluia. Alors des gens vraiment là qui sont plus qu'arrêtés, ils sont même dans le tombeau, je pense à Lazare, c'est terminé, il n'y a plus aucun mouvement, c'est la mort, mais Jésus les appelle à la vie, alléluia, amen. Et je voudrais te dire que pour ta vie aussi, le Seigneur veut la faire la même chose. La Bible nous dit que Jésus-Christ, et ce sont ses paroles, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Alléluia ! Parce que la vie qu'il nous donne, c'est une vie qui est éternelle. Alléluia ! Amen ! Mon corps, un jour, partira en poussière, mais je serai quand même avec le Seigneur. Et mon âme chantera. Et je louerai le beau nom de Jésus. Alléluia. Elle sera toujours en mouvement. Elle sera toujours en adoration parce que je serai dans la présence eh bien, de mon Dieu. Et je voudrais te dire, ces choses se sont passées sur la terre. Jésus est venu apporter cette liberté, ce dynamisme et ce mouvement de l'âme, de la vie, du corps, de l'être, eh bien, sur cette terre. C'est pour nous. Et lorsque nous voyons ce paralytique, c'est pour lui que Jésus est venu. Il a imprimé sa grâce. Il était paralysé physiquement et cet homme s'est mis à marcher. Et peut-être quelqu'un au milieu de nous est paralysé par des puissances spirituelles, peut-être des choses occultes. Tu viens pour la première fois et tu te sens piégé. Tu as touché peut-être à des choses qu'il ne fallait pas. Tu ne savais pas que le Seigneur avait interdit l'occultisme, le spiritisme, etc. Mais ces choses existent. Tu étais au contact de puissances de ténèbres et tu es bloqué. Peut-être d'autres sont, comme je l'ai dit, paralysés par des chocs émotionnels. Peut-être d'autres sont paralysés par des fausses doctrines pour être aimé de Dieu. On l'a entendu ça hier et ce matin aussi, on a eu un don spirituel. Pour être aimé de Dieu, il faut que je le mérite. Il faut que je mérite l'amour de Dieu. Et tu es toujours dans une espèce de rapport de compétition. Il faut que j'en fasse davantage pour mériter que Dieu t'aime. Mais je voudrais vous dire ceci, la nature de Dieu, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour, il n'aime pas de temps en temps, il ne se met pas à aimer. C'est sa nature de t'aimer, alléluia. Et il veut te dire, eh bien, il sait très bien tes combats, il connaît très bien tes limites, et il veut t'apporter la solution, ce qui te paralyse, parce que Jésus, à la croix, a vaincu toutes ces choses. À la croix, il a été immobilisé. À la croix, il a été crucifié. Il a pris ce qui t'empêche d'avancer. Il a pris ton péché. Il a subi les coups de l'adversaire. Il a été jusqu'à la mort. Il est mort et on l'a placé dans le tombeau. Mais la bonne nouvelle, comme on l'a chanté dans ces derniers chants, c'est que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Alléluia! Mais gloire à Dieu, amen! C'est-à-dire qu'il est capable de remettre en marche toutes les vies qui sont bloquées, qui sont arrêtées, quelle que soit l'origine du blocage, quelle que soit l'origine de la paralysie, que ce soit ton passé, ton péché, peut-être une addiction comme on en a vu hier, peut-être des chocs émotionnels dont je parlais, des traumatismes, peut-être encore d'autres réalités spirituelles. Mais Jésus est le sauveur parfait. Alléluia. Et l'Écriture nous dit qu'il est maître et seigneur et que tout lui est soumis. Alléluia. Mais il n'agira jamais sans ton consentement. Il n'est pas celui qui entre et qui fait violence dans les cœurs, qui entre violemment. Et comme on l'a vu tout à l'heure, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, le Seigneur ne va pas agir sans ton consentement. Et vous avez remarqué que cet homme, ce paralysé, ce paralytique, l'Écriture ne le dit pas, mais la Bible nous dit quand même que Jésus dira, voyant leur foi, on pense quand même qu'ils se sont tous mis d'accord pour amener le paralytique au pied du Maître, au pied du Seigneur. Et toi, tu serais d'accord que Jésus intervienne dans ta vie? Tu serais d'accord que le Seigneur brise cette paralysie, te libère et te mettre en mouvement? Peut-être que tu souffres de blessures, peut-être d'un candidaton, du regard des autres. Peut-être que même l'estime de toi que tu t'es forgé par rapport à certains événements de ta vie t'ont complètement désorienté et tu penses que tu ne vaux rien, que tu es nul et ça bloque ta vie. Ça bloque même ta vie de prière parce que tu n'oses pas demander des choses que Dieu pourtant a préparé pour toi dans sa grâce. Il veut te bénir, mais intérieurement, tu te sens tellement nul, excusez-moi du terme, que tu n'oses même pas le demander. Je ne les mérite pas. Mais je voudrais te dire, chasse cette pensée. Cette pensée, mais c'est une pensée qui vient du diable. Vous savez, on est dans un monde ultra compétitif et qui s'éloigne de plus en plus de Dieu. Voilà. Et pour valoir ça, il faut être le meilleur et le meilleur sans arrêt. Je suis pour les études, on a plein d'étudiants là, et que ce soit au collège, au lycée, dans les universités, et moi je les pousse, allez-y, alléluia. Mais aux yeux de Dieu, on est aimés tous de la même manière, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Pendant des années, ma vie, mon métier c'était de porter du bois. Il ne fallait pas aller à la fac pour ça, pour faire ça. Tu rigoles, c'est vrai. Et ouais, j'ai rencontré des gens, ils n'étaient pas du tout allés à la fac, mais avec le boulot qu'ils avaient, ils nourrissaient leur famille. Ils envoyaient leurs enfants faire des études. Il n'y a pas de sous-métier. Oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on a les capacités de pouvoir faire un bon métier, il faut le faire. Mais on n'a pas tous les mêmes capacités. Et puis tant mieux, Tant mieux. Heureusement que je ne suis pas électricien parce que je ferais disjoncter tout ça. Voilà. Mais on est tous aimés d'un merveilleux amour. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur veut changer tout ça. Et mettre, premier point, ta foi en mouvement. Lorsque ces hommes viennent, Jésus dit, ayant vu leur foi. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est Hébreux 11:1 nous dit, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est croire que Jésus veut nous bénir et on le croit tellement fermement que c'est comme si on le vivait déjà alors qu'on ne le voit pas encore. Jésus dira, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dira ceci, il donnera plusieurs définitions, il dira ceci, mais je sais en qui j'ai cru. La foi, c'est une connaissance. La foi, c'est une confiance. Pierre dira, sur ta parole, je jetterai le filet. La foi, c'est une assurance dans une tempête, alors que tout rugit autour de lui. L'apôtre Paul dit, j'ai cette confiance en Dieu qu'il m'en sera comme il m'en a été dit, c'est-à-dire qu'il nous sortira de cette tempête. Et il avait une confiance, une foi. Et lorsqu'on est dans la présence de Christ, il y a quelque chose qui se met en place. Seigneur, mais tu es venu pour me sauver, tu es venu pour me bénir, tu es venu pour me délivrer, tu es venu eh bien, pour me pardonner, mais je place ma confiance en toi. Alléluia. Et cette révélation de Jésus nous transforme complètement, parce que le Seigneur ne regarde pas nos mérites, mais il nous regarde à notre foi. Et ce matin, le Seigneur veut que tu lui fasses confiance. Il veut que ranimer cette foi, mettre cette foi en mouvement, parce que il y a tellement de promesses qui sont attachées à la foi. Par exemple, je vous cite un texte que vous connaissez par cœur, Matthieu 17, 20. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Alléluia. La foi rend possible ce qui est impossible humainement. Alléluia. Amen. Et ce matin, eh bien, le Seigneur veut, pour que tu puisses avancer, pour que tu sois dynamique, il faut que tu aies une foi. Mais cette qualité de foi, ce n'est pas une foi qui est capable de tout démontrer, de tout comprendre que le Seigneur te demande. Le Seigneur te demande simplement de lui faire confiance à lui. Comment Jésus s'y est pris pour guérir un homme qui était paralytique? J'en sais rien, ça s'appelle un miracle. Ne me demandez pas d'expliquer un miracle. Si j'étais capable de vous expliquer un miracle, ça ne serait plus un miracle. Un miracle, c'est Dieu qui sait faire. Voilà. Mais moi, Seigneur, je crois que tout est soumis, que tu es capable de le faire, alléluia, que tu es capable de me refaire marcher, que tu es capable de me délivrer, que tu es capable de me remettre en marche dans ma vie spirituelle, dans ma marche avec toi. Et une vie chrétienne, eh bien, elle est caractérisée par une foi qui est vivante. Comment avancer avec Jésus? Comment obtenir des bénédictions dans ta vie? Comment être visité par Dieu? Comment être renouvelé, encouragé? Si tu ne places pas ta confiance en lui, si tu n'y crois plus, heureusement qu'ils y ont cru, hein. Et puis ils y ont cru tellement que rien ne les arrêtait. Avec leur copain qui était malade, ils étaient certainement quatre là sur un grabat, ils le portaient comme ça. Ils ont même, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé le toit de la maison, le toit terrasse là, tac, tac, c'est en Orient. Je suppose qu'ils avaient des cordes, ils ont descendu. Imaginez, vous êtes dedans là, ça tangue. Hein, et puis il amène au pied de Jésus, mais ils y croyaient dur comme fer. Amen. Merci Seigneur pour la qualité de foi. Et le contraire de la foi, eh bien, qu'est-ce qui peut bloquer ta foi? Eh bien, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Qu'est-ce qui se passe? Le refus de croire. Il y a un compromis qui est entré dans ta vie, de l'orgueil, la peur, la désobéissance. Quand je cite tous ces noms, je pense notamment à l'exemple du peuple d'Israël qui avait été libéré des Égyptiens et toute une génération qui était destinée à entrer dans le pays promis n'y est pas entrée mais a erré dans le désert parce qu'ils n'avaient pas la foi pour y entrer. Et ce matin, je prie afin que ta foi retrouve son dynamisme. Alléluia. Amen. Permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que vous nourrissez, est-ce que vous prenez soin de votre vie spirituelle? Vous prenez soin de vos dents? Oui ou non? Je suis sûr que si je vous demande de faire ça, non, le faites pas tous. Ça va me faire peur. Voilà. Hein, vous frottez les dents, vous nettoyez les dents, etc. Ce matin, surtout, là, vous dites, je vais rencontrer du monde. Tous les jours, vous brossez les dents. Voilà. Mais prenez-vous soin de votre foi. Le Seigneur dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ce qui rend dynamique ta foi, eh bien, c'est ton amour de la parole de Dieu. Vous connaissez par cœur ces textes. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que ce livre, il est là ? Tout à l'heure, on a chanté, j'ai beaucoup aimé, « Jésus, tu es l'auteur de ma joie ». Et je me suis dit, mais c'est vrai, Seigneur. L'auteur de ma joie, c'est toi. Alléluia. Permettez-moi de vous dire que je n'ai pas attendu d'être pasteur pour le dire. Quand j'étais en train de porter du bois, je venais au boulot avec un sourire que les collègues de travail disaient « Mais tu vas pas bien quand même. Ton boulot là, qu'est-ce que tu fais? Il pleut, il vente, il neige. Tu es toujours dehors en train de... » Mais moi, ils ne pouvaient pas comprendre. Je venais de me réveiller le matin et avant même de prendre un café, je venais de lire la Bible, de prier le Seigneur. Mais mon cœur, il était gros comme ça. Alléluia. Amen. Et vous êtes comme ça, vous aussi. Parce que vous nourrissez votre foi, alléluia. Et votre foi, elle se met en mouvement. Et parfois même, lorsqu'on ne sait plus comment faire, mais lorsqu'on cherche le Seigneur, lorsqu'on se dit, Seigneur, mais comment faire? L'Écriture nous dit qu'il y a même un don de l'Esprit qui s'appelle le don de foi. Pour une situation bien particulière où Dieu nous donne la foi d'y croire alors que, tac, par exemple, Pierre et Jean, ils montent au temple, il y a un boiteux là qui demande, là, et Pierre, il voit que, il ne s'était pas prémédité, hein, mais le Saint-Esprit saisit l'apôtre Pierre et lui dit, écoute, j'ai ni or ni argent à te donner, c'était quelqu'un qui faisait la manche. Hein. Il dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Il le prend par la main droite, allez, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Plam. Mais ça, c'est le don de foi, alléluia. Et le Seigneur, dans des situations parfois compliquées, difficiles, nous donne une foi. Alléluia! Qui est capable de déplacer les montagnes. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque mon épouse a appris, je le répète ça parfois, que notre troisième avait, alors qu'il était encore dans le sein de sa mère, c'était encore un petit, voilà, embryon, que c'était pas sûr que la grossesse aille au terme. Voilà. Le Seigneur lui a parlé. Tout va bien. Le Seigneur lui a donné une parole dans laquelle la paix est venue. Elle avait besoin de l'entendre. C'est elle qui portait l'enfant. Alléluia. Et cette paix s'est installée dans son cœur. Et parce que la parole de Dieu a mis une assurance dans sa vie, cette foi lui a permis d'avancer pendant toute la grossesse. Et le petit, il est né et il est bien. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, le Seigneur veut te remettre en selle. Fais confiance au Seigneur. Et puis, ce qui peut redynamiser ta foi, c'est la présence des frères et sœurs. Mais j'insiste aussi sur ta qualité de piété personnelle, sur ta vie de prière personnelle. N'attends pas le dimanche matin ou le jeudi, le mardi pour prier, mais chaque jour et du temps devant le Seigneur. Alléluia. Vous êtes toujours là ? Amen. Donc cet homme, il a placé sa foi et Jésus, deuxième point, le pardon. Pardon, Seigneur met en mouvement le pardon. On le sait bien, hein, ce qu'il y a de plus important dans la vie chrétienne avant l'état de notre corps, c'est l'état de notre âme. Et Jésus dira à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Parfois, on peut venir dans un lieu comme celui-ci en disant, Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau travail, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et peut-être quelqu'un est comme ça, vous venez pour là où les premières fois et vous cherchez quelque chose qui est tout à fait légitime. Mais en réalité, le Seigneur, lui, il veut vous donner autre chose. Est-ce que vous êtes prêt à l'entendre ? L'Écriture nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et Seigneur veut te dire, tu peux avoir le meilleur des travails possibles, la meilleure des maisons possibles, et le Seigneur n'est pas contre ces choses, au contraire, et nous avons vu comment Dieu, dans plusieurs vies, même ici, a posé sa main pour bénir d'une manière matérielle. Alléluia! Mais le plus important, c'est d'avoir fait la paix avec Dieu. C'est de savoir que tes péchés sont pardonnés. Comment on fait, pasteur, pour savoir que mes péchés sont pardonnés? Tu as compris que tu étais un pécheur? Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui désobéit. Quelqu'un qui est rebelle, oui, je comprends, parce que c'est vraiment ça que j'ai été avant, de découvrir le Seigneur. Eh bien, maintenant, est-ce que tu crois que Jésus est venu pour payer ta dette à la croix? Eh bien, je fais un acte de foi. Oui, je le crois. Je crois que Jésus est venu pour me pardonner de mes péchés, que c'est le Fils de Dieu. Et tu peux lui dire, alors Seigneur, je te demande pardon. Viens dans ma vie, Seigneur, règne en moi. et tu vas voir une vie complètement changée. La Bible nous dit même que tu vas naître de nouveau. Tu vas devenir une nouvelle créature. Et tu vas te mettre à marcher avec Dieu. Et tu vas louer Dieu parce que tu vas dire, mais malgré une vie de misère, une rébellion, malgré un cœur dur comme la pierre, toi, tu n'as jamais renoncé à m'aimer. Et au jour où finalement j'ai plié les genoux pour te demander pardon, tu ne m'as pas méprisé, tu ne m'as pas rejeté, mais tu m'as pardonné de tous mes péchés. Alléluia ! Amen ! Gloire à Dieu ! Et c'est ça, eh bien, qui est le socle de notre rencontre avec le Seigneur. Pas vrai, François ? Il nous a pardonné, amen ! Et heureusement, il nous pardonne encore. Amen ! Mais alors, le pardon fait donc partie de la vie chrétienne. Et quelqu'un, peut-être, ne comprend pas pourquoi ça marche, n'avance pas. Et peut-être, y a-t-il un obstacle à lever à ce niveau-là, au niveau du pardon ? Peut-être gardes-tu une rancune. Vous savez, un chrétien qui ne pardonne pas, je me fais du souci pour lui. Non pas parce que je le dis, mais parce que la Bible l'enseigne. Et dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6e, voici ce qui nous est dit. Je vous le lis simplement. Le Seigneur donne tout un enseignement sur la prière, voilà, notre Père qui est aux cieux, vous connaissez. Et au verset 12, dans cette prière, il dit, mais pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ah. Et le Seigneur, donc il termine cet enseignement, et il donne une petite annexe, et au verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et dites-moi, quelqu'un qui n'est pas pardonné de ses offenses, mais il va où ? Il n'est pas sauvé. Hein ? Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, il nous pardonne. Mais si nous retenons nous-mêmes ce pardon dont nous avons tellement eu besoin pour avancer, eh bien nous comprenons que nous sommes eh bien en danger et même en recul par rapport eh bien à notre marche avec le Seigneur. Et peut-être quelqu'un est-il comme ça. On n'a pas le temps d'aller trop loin, mais vous lirez dans 2 Samuel au chapitre 13 et au verset 32, un homme qui a vécu quelque chose de terrible, un drame familial, sa propre sœur a été abusée par son demi-frère. Cet homme, il s'appelle Absalom. Sa sœur est abusée par le demi-frère et lui, au lieu de pardonner ou même de rendre cette, parce que il y avait une loi en Israël qui était là pour régler ce genre de problème et de situation, voyez-vous, mais au lieu, il garde le silence, il fait taire sa sœur et il nourrit une haine, une amertume, une rancœur, une colère qui va durer des mois et des mois jusqu'à former un complot pour tuer eh bien, son propre demi-frère. Et il va devenir, par absence de pardon, un meurtrier et un assassin. Vous comprenez qu'avec de tels sentiments dans le cœur, on ne peut pas aller bien loin avec le Seigneur. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pour cela, hâte-toi de pardonner. Quelqu'un a dit, et j'ai bien aimé le titre de ce livre, « Le pardon, c'est une puissance qui libère. » Elle libère celui qui te demande pardon, mais elle te libère à toi aussi. Et même, je crois que le pardon, parfois, il fait plus de bien encore à celui qui pardonne qu'à celui qui reçoit le pardon. Parce que ben, tu pardonnes, mais comment je peux faire pour pardonner ? Je comprends, il peut parfois se trouver dans une situation où on est tellement blessé et on te dit, allez, tu dois pardonner, mais tu dis, mais d'abord, je suis tellement blessé, il faut que je comprenne ce que je suis en train de faire quand même. Et ça peut demander un certain temps, mais tu peux dire au Seigneur, Seigneur, on m'a fait du mal, j'étais troublé, j'ai du mal à pardonner. Tu peux le dire ça au Seigneur, tu peux tout dire à Jésus. Mais Seigneur, ce que je veux, c'est faire ta volonté. Parce qu'il est écrit de... dans l'Épître aux Colossiens, etc. Pardonnez-vous les uns aux autres. Ça vous est déjà arrivé de vous demander pardon entre frères et sœurs ? Moi, ça m'est arrivé, hein. Même ici, hein. De demander pardon à une sœur, à un frère, parce que je l'ai blessé. Parfois, c'est involontaire. Hein. Voilà. Mais ça fait du mal quand même. C'est pas parce que c'est involontaire que c'est pas grave. vaut mieux être conscient de ce qu'on fait. Et tu as fait du mal à quelqu'un, tu t'en es pas rendu compte, la personne souffre et parfois ça peut durer. Mais tu demandes pardon. Et tu essaies de réparer aussi. Vous voyez ? Mais si c'est quelque chose dont tu as été victime, mais tu peux dire, Seigneur, je veux être comme toi, Seigneur. Je veux que tes sentiments passent en moi parce que je ne veux pas être dans l'amertume. Je ne veux pas avoir ma vie, je veux qu'elle avance, je veux qu'elle soit en mouvement, qu'elle soit dynamique. Je ne veux pas qu'elle soit bloquée par le passé, que je dis sans cesse, celui-là, il m'a fait un truc, j'attends de me venger. Mais ça, ce n'est pas du Seigneur, ça. Ce n'est pas du Seigneur. Et le pardon, eh bien, c'est ce qui eh bien, est capable de restaurer ta vie eh bien, personnelle avec le Seigneur, avec ta foi, ta marche avec Dieu. On n'a pas le temps d'en parler, mais il y a des miracles qui se sont passés, des restaurations de vie lorsque le pardon a été apporté. Je pense notamment à ce frère, Nicky Cruz, vous avez peut-être entendu parler, qui avait une rancœur à l'égard de sa maman, qui avait été violente avec elle, un enfant battu. Et en plus, cette femme, elle faisait de la sorcellerie. Elle souhaitait même des choses terribles pour son fils. Et cette femme et ce garçon qui connaît le Seigneur va être amené eh bien, au chevet de sa mère mourante. Et là, il va la pardonner, elle va demander pardon. Il va y avoir un miracle, cette femme va être guérie. Amen! Il y a des choses qui se débloquent quand on pardonne. Au nom de Jésus, alléluia. Amen. Parce que celui qui ne veut pas que vous pardonniez, celui qui ne veut pas que vous pardonniez, ce n'est pas le Seigneur. Celui qui veut que vous restiez rempli de haine, de rancœur, que vous ne tourniez pas la page, vous savez qui c'est, hein ? C'est l'accusateur. C'est le diable. Il ne veut pas que vous pardonniez. Mais celui qui veut restaurer votre vie et qui veut que vous pardonniez, c'est votre Dieu. Alléluia. Amen. Alors je passe, et il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais je termine pour dire que la guérison se met en mouvement également pour cet homme. Bien sûr, j'ai la foi, merci Seigneur, tu me pardonnes, mais maintenant j'ai besoin d'être guéri. Et cet homme aura besoin d'être guéri, et je vais avancer, mais simplement pour vous dire que eh bien, le Seigneur connaît tes souffrances. Il connaît eh bien, ce qui a pu te faire souffrir. Le Seigneur a connu la négligence, le rejet, l'abandon, la trahison, l'exclusion, la violence, l'oppression, la domination, l'humiliation. Et quand on lit dans le chapitre 53 d'Ésaïe, on voit que toutes ces souffrances, le Seigneur les a connues en son propre corps. Et Christ est celui eh bien, qui les a portées, mais il est ressuscité. Et il est ressuscité non pas dans un corps blessé, mais dans un cœur glorifié, guéri. C'est-à-dire que Christ est celui qui peut t'apporter la guérison dont tu as besoin. Alléluia. Amen. Qui d'entre vous, lorsqu'il est venu au Seigneur, n'était pas blessé, mais est même découragé personnellement, troublé, impacté, émotionnellement instable. J'avais rencontré le Seigneur, mais j'étais toujours blessé. Et Jésus m'a guéri, alléluia. Et lorsque nous lisons les Écritures, eh bien nous voyons de ces hommes, de ces femmes, eh bien qui ont été restaurés. Vous savez, lorsque je suis venu ici dans cette assemblée, c'était il y a 10 ans, c'était... Véronique, le temps passe, hein, elle me regarde comme ça. C'était en 2014. Je venais d'une certaine église, et avec Anne, on n'était pas en super bon état. Le Seigneur était là, merci, gloire à Dieu, amen. Mais on venait passer 2 années, je pense que c'est les pires qu'on a passées. Et ensuite, on est arrivé à la Mosson. Alors, on a dit, oh, et quand on est arrivé à la Mosson, on a tout trouvé beau. Mais c'est vrai, hein. Vous savez, quand vous avez connu des choses tellement dures, après, quand vous trouvez eh bien, quelque chose où enfin... Eh bien, vous pouvez vous exprimer, servir le Seigneur. Ben, tout est beau. Et la Mosson, c'est merveilleux. Non, mais je vous le dis. Hein. Amen. La Mosson. Est-ce que ce n'est pas vrai, Daniel ? Ce n'est pas merveilleux ? Il est où, Daniel ? Amen. Il est dehors. Daniel, mais écoutez, mes frères et sœurs, je vais vous donner un témoignage. Je voudrais, pour vous dire que c'est merveilleux, la moisson. Parce que vous, vous êtes en train de me regarder, c'est dubitatif. Il y a d'autres quartiers à Montpellier. Non, mais c'est merveilleux. On a un frère, là. Il est allé visiter Péricot. Voilà. Et prendre des nouvelles. Mais c'est bien que des frères aillent voir d'autres frères. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non? Est-ce qu'il n'y a que le pasteur qui doit prendre le téléphone pour prendre des nouvelles? Non, tout le monde. Hein. Ouais, j'espère que vous le faites, hein, que vous le faisiez. Hein. C'est ça, c'est l'amour fraternel. Et donc, il va voir le frère. Et comme sa voiture, je me tourne vers Yvelise, elle a un peu d'âge quand même. Voilà. Elle a pas redémarré. Panne de batterie, vous voyez, en ce moment. Et il m'appelle. Et il me dit, est-ce que tu peux venir? Je lui dis, écoute, j'arrive, le temps de terminer. Voilà, il était 19h20, on avait la réunion à 20h. Je dis, mais écoute, tac, j'arrive. Je pars. Et donc, j'arrive vers lui, là. Donc, c'est avenue de Barcelone, c'est quoi? On est au cœur de la paillade. Hein. Enfin, voilà ce que je veux vous dire. Hein. Hein, Monique, tu confirmes. Hein. Au cœur du cœur du cœur. Hein, voilà. Hein. Bon, voilà, on y va. Mais voilà. Mais c'est un bon quartier. J'arrive. Et il y a déjà 3-4 personnes qui sont en train de s'occuper de la voiture de Daniel, et qui ont sorti les câbles, allez, accélère, etc., et machin, et ceci, et cela. C'est pas des Français d'origine, hein, vous m'avez compris. Hein. On est au cœur de la paillade. On est d'accord. Hein. La religion, vous m'avez compris. Et à un moment, Daniel, qui veut leur dire merci, il avait un billet, et il veut leur donner. Et il dit, non, nous, on ne veut pas. On ne veut pas de ça. On ne veut pas ça. Nous, on l'a fait. Un jour, c'est peut-être vous qui nous aiderez. Moi, je me suis dit quand même, ces hommes-là, je me suis dit, mais Seigneur, mais il ne leur manque que toi, en fait, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ils ont besoin. En réalité, je ne suis pas sûr que s'il est, excusez-moi, hein, s'il était tombé en panne du côté de la Comédie ou du Corum, il ait eu le même accueil. Oui ou non? Je ne suis pas sûr. Mais à la Mosson, ça s'est passé. Amen. Et mes frères, pourquoi je vous dis ça là? Je suis dans quoi, moi? Je suis dans la guérison. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis. Vous réécouterez l'enregistrement et vous comprendrez. Voilà. Mais en tout cas, pour vous dire que, oui, voilà, quand on est venu ici, on était dans un moment extrêmement compliqué. Mais, comment dire, mais c'est un beau pays, la Mosson. Et je crois que le Seigneur veut faire du bien, alléluia, et que nous puissions ouvrir les yeux sur ces hommes et ces femmes, eh bien, qui sont là, qui ont besoin du Seigneur, qui ont des qualités, mais ils sont pris dans des pièges, qui sont des forteresses de l'adversaire qu'il faut faire tomber pour qu'ils rencontrent Jésus, alléluia. Mais il y a des cœurs qui sont bien disposés à recevoir la bonne parole de Dieu, alléluia, amen. Et nous, on a été guéris à la Mosson, en prêchant la parole, en étant au milieu de vous, alléluia, on a pardonné avant. Parfois, ça a mis un... Parce que la vieille nature, elle est là. Hein. Ah. Si je l'attrape. Non, Seigneur, je veux pas... C'est pas possible. Seigneur, je pardonne, Seigneur. Comme tu m'as pardonné. Je suis libéré, tu as restauré ma foi, mais la vie continue. Tu m'as guéri. Et dans le pays compliqué, tu me fais porter du fruit. Alléluia. Amen. Vous savez, on n'a pas le temps de le lire, mais je pensais à Joseph. Cet homme qui, dans le pays de son affliction, a eu des enfants, il leur a donné des noms qui parlent de sa guérison. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. N'essaie pas de fuir, de t'en aller, avant que le Seigneur ne t'ait guéri, ne t'ait restauré. Alléluia. Émotionnellement, sentimentalement, rétabli. Alléluia. Je prends juste le temps, peut-être parce qu'il y a des jeunes, et peut-être des moins jeunes, qui pensent eh bien, à se marier. C'est très bien. C'est le plan de Dieu. Bon, il faut prier pour que vous soyez vraiment dans la paix et que ça corresponde vraiment au plan du Seigneur. Si vous avez besoin, on peut en parler. Mais s'il y a eu une blessure auparavant, une rupture, quelque chose qui, au niveau sentimental, a laissé des traces, avant de vous engager, guérissez votre âme. Guérissez-la. Il y a récemment quelqu'un qui était comme ça, veuf, et qui a envisagé, voilà, merci Seigneur, un remariage. Mais il s'est aperçu que ce n'était pas du tout cicatrisé. Imaginez la déception de l'autre personne, la blessure de cette autre personne qui est là, qui aime quelqu'un, qui en fait pense toujours à quelqu'un qui est décédé. Il faut que ce soit guéri à l'intérieur, oui ou non? Et moi, je crois que le Seigneur est capable de guérir les cœurs brisés. Ça peut prendre du temps. Mieux vaut prendre le temps que le Seigneur donne pour que vous soyez guéri et que vous puissiez repartir d'un bon pied. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Alors, on va prier si vous voulez bien. Et on tient parce qu'on est là pour prier. En disant, Seigneur, je veux que ma vie, elle aille de l'avant. Amen. Gloire à Dieu. Je place ma confiance en toi.